Bienvenue si vous débarquez sur l'antenne du 101.2. C'est une semaine spéciale, vous le savez, depuis lundi, on est en immersion au Prunier Sauvage, à côté du parc Bachelard, à côté du quartier Mistral, pour une semaine dédiée aux médias avec le Prunier Sauvage, News FM bien sûr, Cap Beria, avec le soutien d'Innov. Et puis, comme tous les jours à 14h, c'est la discute. La discute, le moyen d'aborder plein de thématiques autour des médias. Toujours avec Brahim, directeur du Prunier Sauvage, qui est avec nous pour partager l'antenne. Salut Brahim.
Salut, bonjour à toutes et à tous. Et aujourd'hui, on va aborder un nouveau thème qui est les médias 2.0, quels sont les nouveaux médias qui émergent et qui donnent une image un peu différente aussi de ce qui peut se passer dans les quartiers populaires et même plus largement.
Carrément, et on a des invités avec nous pour en parler. Tout d'abord, avec la présence de Nadia Slimani. Bonjour.
Bonjour.
Alors Nadia Slimani, toi tu as un blog, média, podcast qui s'appelle Nerner.
Exactement, c'est ça, Nerner Podcast.
Nerner Podcast, exactement.
Ah, tu l'as presque bien...
Presque, ça va ?
Non, si, tu l'as bien dit.
Ah, Nerner. Merci.
J'applaudis la prononciation, vraiment, c'est presque mieux que moi.
Merci. Et on a un autre invité, cette fois-ci, qui est en ligne avec nous, puisqu'il n'est pas sur Grenoble, Brahim.
Oui, c'est Argo, le média Argo. Donc, nous avons le plaisir d'accueillir Abiola Aubin-Honra. Bonjour Abiola.
Enchanté tout le monde.
Bonjour.
Et c'est un super plaisir d'être avec vous là, aujourd'hui, cet après-midi.
Donc Abiola, tu es à Paris.
Bonjour à toi Nadia, et bravo pour ce que tu fais.
Bah, merci et bravo à toi.
À Paris.
Je suis très heureuse de discuter avec toi aussi.
Très bien, merci. C'est réciproque. Voilà. En direct du 18e.
Et on a un léger décalage, c'est bien sûr parce que nous sommes par Skype avec Abiola.
Exactement. Donc les médias 2.0, c'est vaste comme thématique. Mais justement, on va essayer d'être un peu plus précis et de dénouer tout ça, tous ensemble. On va commencer, Brahim, si tu veux bien, par présenter un peu le blog et la personne de Nadia Slimani. Alors, Nerner. Nerner Podcast.
Qu'est-ce que c'est Nerner déjà ?
Déjà, ouais.
Qu'est-ce que c'est Nerner ? Alors Nerner, c'est un mot arabe qui veut dire menthe. Nerner, pour celles et ceux qui nous écoutent, je l'écris N-A-3-N-A-3. Et en fait, dès le titre du podcast, on voit déjà la double identité parce que le son « Hein » qu'on entend dans Nerner, ce son si difficile à prononcer, c'est un son qu'on ne peut pas écrire avec notre alphabet. Donc les personnes qui sont arabophones ont trouvé la technique avec la translittération de l'arabe en utilisant des chiffres qui ressemblent à des lettres arabes. Et c'est pour ça que je l'écris donc N-A-3-N-A-3 et que c'est si difficile à prononcer. Mais j'aime bien le fait que les personnes qui ne parlent pas arabe aient cette petite difficulté justement devant un peu travailler pour pouvoir arriver à le prononcer. Et même moi, j'ai un accent français, je l'assume et c'est le jeu.
Mais c'est bien, ça impose la recherche et du coup le pas vers aussi la culture.
Je trouve ça super qu'on vienne vers nous. Tu vois, qu'on vienne vers ce côté de la Méditerranée pour une fois. Enfin, pour une fois, il y a plein d'autres projets qui le font, heureusement. Mais pour une fois, on vient vers nous.
Le nerner se mérite.
Oui, un bon nerner se mérite.
Ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'aussi Nadia a fait l'effort de venir de Marseille pour être avec nous aujourd'hui. Donc, merci beaucoup.
Merci,
grave. C'est un grand plaisir. C'est une très belle ville, Grenoble, que je ne connais pas encore assez, mais il y a un grand soleil. Je suis très heureuse d'être avec vous.
T'es bien tombé, on va dire.
J'ai apporté le soleil avec moi.
Tu m'étonnes.
On reviendra sur Nana. Juste un petit mot pour présenter peut-être Argo avec Abiola. Qu'est-ce que c'est Argo ? Je pense que tu le présenteras mieux que moi. Ce média qu'on trouve sur Internet, très beau d'ailleurs, très bien fait.
C'est vrai.
Merci. Merci. Alors, très simplement, Argo, c'est un jeune média-agence que j'ai cofondé en 2016. Et c'est un média, une agence qui est orientée vers l'impact social, l'inclusion et la diversité. Et on a pour particularité d'avoir les quartiers populaires dans notre ADN. Ça veut dire que notre ligne éditoriale et même notre univers graphique auquel tu faisais peut-être référence est vraiment infusé et imprégné de l'univers des quartiers.
Oui, il y a un travail esthétique très fort, très important. Il y a vraiment une démarche artistique dans votre projet.
Oui. nous, ça nous tenait à cœur dans la mesure où, pour nous, quand on est, on grandit dans un quartier, ben, on voit le monde avec nos yeux. Et généralement, le monde, quand on est enfant, on le voit beau, enfin, si tout se passe bien. Et on se rendait beaucoup, beaucoup compte que l'extérieur, en fait, voyait notre monde comme étant dantesque. Et c'était important de nous de le décrire avec nos yeux et avec la poésie qu'on avait dans le regard.
Pourquoi argot, là, ce titre ?
Bah, tout simplement parce que c'est l'argot des quartiers, c'est la langue qu'on parle entre nous. Alors, en l'occurrence, le mot narnar, je le prononce très mal, hein, c'est un terme arabe, mais je sais ce que c'est parce que j'entendais des potes qui, en argot, parlaient de narnar pour désigner du thé. Et c'est l'argot, c'est un peu, voilà, c'est code, quoi, parler de nos codes, parler de notre monde, et c'est de nous vers le monde, quoi.
D'ailleurs, voilà. Vous proposez un dictionnaire du vocabulaire dans les quartiers, c'est ça ?
Ah, j'ai vu ça aussi, ouais.
Et il y a des mots à hanout. Je vois que vous avez mis hanout.
Ce qui veut dire, hein, pour les non-arabophones, s'il te plaît ?
Hanout, à la base, c'est c'est la petite épicerie du coin. Et dans le dictionnaire que nous propose Argot, c'est la petite épicerie tenue par un gérant traditionnellement surnommé chef. Et dont le principal pouvoir consiste à vendre tout et n'importe quoi au double de son prix. La légende raconte que personne ne les a jamais vus fermer. Donc voilà, la parfaite définition de Hanout.
L'idée de ce guide-là, c'était de se dire que, en fait, on avait deux approches, hein, pour ce guide-là. La première, c'était de se dire, est-ce qu'on explique les mots d'argot aux gens qui ne les connaissent pas ? Et dans ce cas-là, on se retrouve dans un exercice qui est beaucoup plus scolaire. Ou est-ce qu'on raconte les mots d'argot aux gens qui les connaissent ? Et on a choisi la deuxième option, et c'est pour ça qu'on s'est éclaté sur les définitions. Surtout que ça n'empêche pas aux gens qui ne connaissent pas ces mots-là de les découvrir à travers nos définitions. Mais il est important de nous parler à nous-mêmes, en fait. Ouais. Donc voilà.
Et super, on va continuer à découvrir les deux projets. On fait des discussions croisées. Vous n'hésitez pas à poser des questions aussi, hein, si vous le souhaitez. On a un petit public avec nous, donc un tout petit public.
Un tout petit.
Covid oblige. S'il y a des questions, n'hésitez pas aussi, chers auditeurs. Et d'ailleurs, même pour ceux qui nous écoutent sur News FM, vous pouvez poser vos questions par mail à info@leprunier-sauvage.com ou nous retrouver en Facebook Live pour vos réactions. Un petit retour sur Narnia, très rapide aussi. Quelle est l'histoire, quelle est l'origine de cette idée, de ce projet, Nadia ?
Alors, Narnar Podcast, il est né à Marseille avec la volonté de valoriser la diversité des Français et Françaises d'origine nord-africaine. Je suis moi-même d'origine nord-africaine, je suis la première de ma famille à être née en France. Toute ma famille est marocaine et donc moi aussi. Et donc, très petite, j'ai vu ce décalage entre la maison et l'extérieur. Et dans le milieu où j'ai grandi, je me suis retrouvée avec très peu, finalement, de personnes d'origine nord-africaine. Et je me demandais justement si j'étais la seule à être traversée par tous ces questionnements sur mon identité, sur mes choix de vie, sur ma manière, rien que de m'habiller, ce que j'écoutais, ce que j'avais envie de faire dans la vie. Et c'est des choses qui m'ont assez torturée, j'ai envie de dire, parce qu'au moment de l'enfance et plus particulièrement de l'adolescence, on est tiraillé entre plein de questionnements. Et j'avais envie de savoir est-ce qu'il y avait d'autres gens comme moi, quoi. Parce que je ne voyais pas de modèles dans les médias, je ne les voyais pas dans les pubs, je ne les voyais pas à la télé. Et moi, j'ai fait un master de médiation culturelle avec cette envie de faire le lien entre différents publics. Donc moi, après mes études, j'ai travaillé dans des quartiers populaires, j'ai travaillé dans des assos, dans des musées, avec cette volonté de créer des espaces où les gens qui n'étaient pas voués à se rencontrer pourraient se rencontrer via la culture. C'était vraiment ma volonté première. Et en fait, un jour, un ami m'a donné un très bon conseil. Il m'a dit « Mais Nadia, arrête de t'occuper des autres et fais quelque chose pour toi. » Et je me suis dit « Mais oui, je vais faire quelque chose pour moi, ce que j'aurais voulu avoir moi quand j'étais plus jeune, quand j'étais tiraillée. Qu'est-ce que j'aurais voulu entendre? Qu'est-ce que j'aurais voulu voir comme exemple ?» Et j'ai beaucoup réfléchi au format. Et à Marseille, quand je m'y suis installée il y a 2 ans, j'ai eu la chance de faire une formation en journalisme qui s'appelle la School Media Maker. Et on m'a proposé de faire un pilote de podcast. Et évidemment, le premier sujet qui m'est venu à l'esprit, c'est la question des personnes d'origine nord-africaine. Et dans la classe, il s'avérait qu'il y avait deux autres personnes, deux autres femmes d'origine nord-africaine, Jamila et Meriem, qui ont commencé le podcast avec moi. Et là, on a rencontré une boîte de production qui nous a dit « Yalla, on y va, on produit ce podcast, le projet nous plaît ». Et ça a commencé comme ça il y a bientôt 2 ans. Et depuis janvier, je suis seule dans ce projet. Il y a eu des choses personnelles qui se sont passées. Moi, j'ai été lourdement touchée par le Covid, donc ça a fait une petite pause dans ma vie en fin d'année 2020. Et depuis 2021, j'ai essayé d'utiliser encore une fois ces choses négatives pour en faire quelque chose de beau. Donc tous les stigmates liés à mon origine qui pouvaient être négatifs, bah, je les ai transformés en lieu de valorisation, en fierté avec ce podcast. Et là, j'ai profité de ce contexte qui était un petit peu difficile personnellement pour parler depuis janvier à la première personne dans ce podcast et être un peu l'héroïne de mon propre récit et de me dire que mon histoire et celle des auditeurs et des auditrices vaut la peine d'être racontée. Et c'est ce que j'essaie de dire avec ce podcast.
Oui, donc une démarche très, très intime en fait.
C'est une vraie thérapie pour moi, c'est comme ça que je décris mon podcast. Oui.
Tu me disais que tu découvrais aussi la richesse de la double culture qui n'était pas forcément perçue comme une richesse par toi-même au départ.
Je pense qu'Abiola, tu seras d'accord avec moi pour dire que à l'école ou dans l'adolescence, on ne nous a jamais dit que c'était bien d'avoir cette double culture. On n'a jamais valorisé notre argot, on n'a jamais valorisé... Moi, je n'ai pas vécu longtemps dans un quartier, mais on n'a jamais dit à l'école que c'était super d'être bilingue en marocain, d'alija, berbère, français. On m'a jamais dit que c'était super d'avoir le physique que j'avais, les cheveux bouclés que j'avais. On les a considérés comme pas assez beaux, j'avais pas le corps qu'il fallait. Donc oui, on a toujours dévalorisé nos histoires et en fait, on les raconte pas. Et c'est pour ça que j'ai voulu créer mon média pour raconter l'histoire de mes parents, mon histoire et raconter nos vécus et dire aux plus jeunes et aux autres personnes plus âgées qui auraient encore peut-être ces problèmes-là que oui, en fait, nos histoires valent autant que les autres.
Abiola, bien sûr. Tu voulais réagir ?
C'est vrai que du coup, on va dire le système d'intégration à la française et l'intégration étant une notion que juge raciste hein, au passage, nous pousse un peu à gommer nos différences quoi, pour entrer dans le moule. Et c'est aujourd'hui une réflexion qui est de plus en plus contestée, notamment par notre génération et ceux qui viennent après. Moi, quand je vois nos aînés, c'est vrai que du coup, pour eux, il allait de soi que pour s'intégrer, il fallait gommer sa différence au maximum, au possible. Et c'est vrai que, on va dire, cette logique est de moins en moins présente dans les générations qui suivent. Quoi.
On va peut-être écouter justement un petit exemple, un extrait du podcast de Nana, en tout cas de Nadia Slimani. C'est un extrait qui part vraiment de quelque chose d'assez intime, puisque ça se déroule dans la famille, au sein de la famille. Tu nous expliqueras après
le contexte
de cet extrait. Ouais.
C'est parti.
Mon grand-père a toujours été mère au foyer. Leurs familles sont très modestes. Mon père doit arrêter l'école très tôt.
À l'âge de 6 ou 7 ans, j'ai rentré à l'école coranique, j'ai étudié le Coran. Et voilà, actuellement, je connais le Coran par cœur. Et j'ai fait quelques années des études, c'est-à-dire de 7 à 2 ans, j'ai rentré à l'école, j'ai pris un peu de français et tout ça, là, c'est-à-dire les alphabétisations. Et après, j'ai quitté l'école parce qu'on n'avait pas des moyens. On n'avait pas des moyens de... Disons, on s'est déplacé à cet âge, on s'est déplacé à 12-15 km par jour.
Lorsque ma mère atteint l'âge d'aller à l'école, les cours pour les filles sont arrêtés dans son village. Elle ne met jamais les pieds à l'école. Ma mère ne parle pas français. Elle parle amazigh, berbère et darija, un arabe dialectal marocain. Une espèce de mélange d'arabe, de français, d'amazigh et d'espagnol. Mes parents se marient en octobre
1971.
À cette époque, dans de nombreuses familles, La norme était le mariage arrangé. Les parents choisissaient et organisaient l'union. Mes parents se sont d'ailleurs rencontrés le jour de leur mariage. Lorsque ma nièce demande à ma mère si mon père lui a plu au premier regard, sa réponse est sans équivoque.
Ouais, je fais que
Voilà, alors une réponse sans équivoque. Nadia, tu nous expliques un petit peu le contexte et la réponse de la grand-mère, de la maman.
Oui, de ma mère. Alors cet épisode s'appelle D'où je viens et ça a été un exercice extrêmement difficile. C'est mon épisode préféré, mais ça a été le plus riche en larmes, j'ai envie de dire, et en émotions. C'est l'interview de mes parents. Parce que dans de nombreuses familles nord-africaines et dans de nombreuses familles en général, je pense, le dialogue est compliqué. Et les parents qui ont changé de pays ne racontent pas forcément leur histoire. Et je pense qu'en ignorant son histoire, c'est difficile d'en être fier, finalement. Et je pense que de nombreuses personnes de notre génération essaient de se réapproprier ces histoires, mais elles sont encore méconnues. Et je pense que c'est la source de nombreux troubles que subissent des jeunes. Et donc j'ai pris mon courage à deux mains, j'ai acheté un micro, je suis allée dans le salon chez mes parents et j'ai dit « Allez, je t'interview ». Et ça peut paraître très bête, juste demander à ton père où tu es née, quel âge as-tu, que faisaient tes frères et sœurs, tes parents. Ça a été un moment d'émotion incroyable, très riche, et donc ça a donné lieu à cet épisode-là.
Est-ce qu'ils ils témoignent facilement? Comment était leur réaction quand tu leur mets un micro sous le nez?
Est-ce que tu leur dis avant que ce sera sur ton podcast ou que tu leur dis après?
Alors il y a eu différentes stratégies, hein. Parce que ma mère, comme vous l'avez entendu, ne parle pas français. Elle a essayé d'apprendre français quand elle est arrivée en France, mais elle n'est jamais allée à l'école. Elle a subi du racisme, des moqueries, donc elle a très vite arrêté. Et donc ma mère, comme de nombreuses femmes malheureusement, a été invisibilisée. Elle a dû se taire, elle a dû rester à la maison et elle n'est pas visible aux yeux de la société. Donc prendre la parole, c'était pour elle incroyable et elle ne se sentait pas légitime à prendre la parole. Et moi, qui suis une grande féministe, j'avais envie que ma mère parle et qu'elle se rende compte que son histoire était riche, que c'était une battante et qu'elle avait fait des choses incroyables. Donc évidemment, elle a réagi en rigolant, en faisant des farces à côté. Je lui avais expliqué que ce serait pour mon podcast, mais lorsqu'elle a réalisé que je l'avais vraiment fait, parce qu'elle ne pensait pas que je le ferais vraiment, elle m'a appelée en me disant « Mais t'es malade, les gens ils entendent ça !» Et puis ce qu'elle dit en fait, pour vous traduire un petit peu, parce que j'ai fait le choix et je vous expliquerai après pourquoi, de ne pas traduire sa langue. Elle dit, quand ma nièce lui demande « Et papy, il t'a plu au premier regard ?» Et elle fait « Oula, qu'il te plaise ou non, tu peux taper la tête contre le mur, ça changera rien, quoi. » Et là, elle rigole, elle me dit « Oh mon Dieu, mais t'as dit ça devant tout le monde !» Voilà, donc c'était plus ça. Alors que mon père, qui est un grand militant, qui s'est battu toute sa vie, et c'est de lui que vient ma sensibilité, vient de ma mère, et le côté très militant vient de mon père, je pense. Donc finalement, avec le podcast, j'ai découvert que j'étais le parfait mix des deux, alors que je pensais être un extraterrestre. Mon père, lui, s'est vraiment mis limite en costard, très fier. Dès qu'il y avait un petit bruit, il disait « Chut, stop, on recommence !» Et puis, il a fait l'effort. Mon père a un accent, à la fois du sud et à la fois marocain. Parfois, il faisait des fautes d'orthographe, il se reprenait très vite. Il avait envie de montrer qu'il était français comme un autre français et qu'il était fier. Et il voulait justement représenter cette histoire qui est trop peu racontée. Donc, c'était deux approches très différentes. Et ça donne ce résultat... Que je trouve extrêmement émouvant et extrêmement parlant.
Très, très touchant même.
Ouais.
Et justement, je reviens tout de suite sur le fait de ne pas vouloir traduire. Alors, qu'est-ce qui motive ce choix?
Alors ça a été une grande réflexion parce que mes podcasts ne sont pas encore sous-titrés. J'espère qu'ils le seront et qu'on pourra les mettre sur YouTube ou une autre plateforme pour pouvoir sous-titrer, pour les rendre plus accessibles aux personnes qui sont malentendantes ou sourdes. Mais si j'ai choisi de ne pas traduire, c'est parce que j'estimais tout d'abord que je voulais qu'on entende la voix de ma mère. Parce que sa langue est légitime, ses langues même, car comme je l'explique, elle a plusieurs langues qui se mêlent. Je trouve qu'en France, on efface trop ces langues qui font partie du patrimoine français. J'estime aussi que la voix est porteuse d'émotions et porteuse d'intentions. Et moi, je comprends à peu près tout ce qu'elle dit, mais je pense que quand on ne comprend pas du tout, on ressent quand même ce qu'elle veut transmettre comme émotion. Je pense que son rire, tu as envie de sourire quoi qu'il arrive, elle a une voix très chaleureuse, c'est ma mère, donc je ne vais pas du tout être objective.
On confirme.
Voilà, confirmé.
Que c'est de famille aussi d'ailleurs.
Et donc voilà, il y avait ça. Et puis il y avait aussi le côté, à vous de faire l'effort en fait de comprendre. Pour une fois, ma mère, elle ne parle pas français, elle vit en France depuis 30 ans maintenant. Et personne ne lui traduit les choses en fait. C'est elle de s'adapter lorsqu'elle sort, lorsqu'elle va à la boulangerie ou quoi. C'est elle d'essayer de dire des mots en français. Et bien vous, vous voyez qu'il y a plein de personnes d'origine nord-africaine en France. Faites l'effort de trouver un petit peu des repères dans ce qu'elle dit. Faites l'effort d'apprendre un petit peu ses langues. Je trouve que c'est bien un peu de retourner comme ça cette échelle de valeur et de dire bah oui en fait, la France, il faut arrêter d'être ethnocentré, se dire qu'il y a d'autres langues et qu'on peut aussi accepter de ne pas tout comprendre et au contraire faire un pas vers l'autre et découvrir d'autres héritages.
En tout cas, il y a une musicalité et puis il y a une attitude qui fait qu'on comprend très bien sa réponse, même sans parler, c'était pas vraiment de l'arabe je dirais, mais plutôt amazigh, berbère ou darija. On trouve quoi d'autre dans le podcast ? Il y a combien d'épisodes d'abord ?
Alors, il y a deux saisons. Mercredi prochain sortira le cinquième épisode depuis janvier. Je fais vraiment une différence entre les épisodes qui ont été avant et ceux depuis janvier, parce qu'avant, c'était en équipe de trois. Et depuis janvier, j'ai vraiment pris un nouveau tournant plus personnel, plus journal intime, j'ai envie de dire, où je me raconte vraiment. Et cet épisode est vraiment un ovni parmi les autres, parce qu'en général, ce que je fais, c'est que j'interviewe quelqu'un sur un sujet qui m'anime depuis toujours. Par exemple, en janvier, j'ai interviewé la journaliste, Nesrine Slaoui, qui a sorti le livre « Illégitime ». Et à chaque fois, c'est une longue discussion et ponctuée d'autres témoignages, d'autres personnes, connues ou pas, parce que j'estime que ça se vaut, on peut mélanger les témoignages. Donc voilà, le premier, c'était sur la double identité. L'épisode s'appelait « Double jeu ». Ensuite, il y a eu « D'où je viens ». Ensuite, on a eu un épisode sur la langue arabe. On passera un extrait tout à l'heure avec le journaliste journal Le Monde, Nabil Wakim, qui parle du rapport à la langue arabe, qui est une vaste question. Et le dernier épisode qui est sorti est un épisode qui s'appelle « Comme une arabe en France ». Et j'ai interviewé la psychiatre franco-tunisienne Fatma Bouvet de la Maison Neuve, qui parle des troubles justement que peuvent générer... cette double identité justement et la façon dont elle est traitée en France.
Donc voilà, des podcasts, des épisodes très intéressants qu'on peut retrouver sur
toutes les plateformes
Deezer, Spotify, voilà.
Exactement.
Et je propose d'ailleurs qu'on écoute tout de suite l'interview, la seconde interview, avant de retrouver, c'est une interview de 3 minutes à peu près.
C'est ça, à peu près 4, on n'est pas loin de 4.
4 minutes et puis on reviendra sur Argo. Et on entrera un peu plus dans le détail avec Abiola.
Bonjour Nabil et merci d'avoir accepté mon invitation.
Bonjour.
Nabil, tu es né en 1981 à Beyrouth pendant la guerre civile. Tu es arrivé en France à l'âge de 4 ans. L'arabe est donc la langue de ton enfance. Et pourtant, aujourd'hui, tu dis être nul en arabe. Qu'est-ce qui s'est passé ?
Alors effectivement, c'est un peu ce que je raconte dans ce livre qui s'appelle « L'arabe pour tous », qui raconte à la fois mon histoire personnelle et puis je pense l'histoire de d'autres enfants issus de l'immigration comme moi. Donc moi, je suis né au Liban, on m'a parlé en arabe quand j'étais petit, c'est donc ma langue maternelle. Et puis quelque part, entre mes 4 ans et mes presque 40 ans, ben j'ai perdu l'arabe en cours de route. Et si je l'ai perdu, je pense que c'est... pour plein de raisons, mais notamment parce que pendant longtemps, et notamment pendant mon adolescence, j'avais pas envie de parler l'arabe, j'avais honte de cette langue, je m'y identifiais pas du tout, et j'avais pas du tout envie de l'utiliser dans la vie, ni d'être identifié à quelqu'un qui parle arabe, et à un arabe tout court. Et donc c'est aussi pour ça que j'ai eu envie d'écrire ce livre. Pour moi, c'était une sorte de reconquête, pas simplement de cette langue, mais aussi de ces questionnements autour de l'identité et de la langue.
Et quand est-ce que tu as réalisé que tu l'avais perdue, cette langue ? Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu aies ce déclic ?
En fait, c'est assez curieux, mais quand j'étais étudiant, je suis parti en Espagne pendant un an, comme beaucoup d'étudiants français. Je suis parti faire une année Erasmus et là-bas, j'ai appris l'espagnol. Il se trouve que j'étais en Andalousie, qui est une terre marquée par l'histoire arabe et où la manière de parler l'espagnol est très influencée par l'arabe. Je parlais très mal l'espagnol en arrivant et très bien en partant. Et je savais très bien prononcer plein de sons qui existent en espagnol. Les A, les R et les R qui, bizarrement, sont des sons qui existent aussi en arabe pour des raisons qui s'expliquent de manière évidente. Et en revenant, je me suis dit, tiens, mais c'est bizarre. J'ai appris l'espagnol assez facilement. Pourquoi j'apprends cette langue avec laquelle j'ai pas de lien ? alors qu'en fait, il y a une langue qui est dans ma vie, dont les sons sont assez proches, les sonorités sont assez proches, et dont je ne sais finalement pas grand-chose.
Tu dis quand même que tu comprends l'arabe, mais que tu ne parles pas. Il y a quand même une espèce d'entre-deux linguistique dans ta vie.
Oui, et je pense comme beaucoup de gens, c'est-à-dire que l'arabe a été quand même une langue parlée dans la maison dans laquelle j'ai grandi, puisque mes parents, particulièrement ma mère, me parlaient en arabe, mais dans un champ lexical assez restreint. C'est-à-dire, c'est vraiment l'arabe de la maison, range ta chambre, finis tes falafels, prépare-toi pour aller à l'école, tout ça, il n'y a pas de problème, ça je comprends très bien en arabe. Par contre, s'il faut parler de politique, d'amour, de problèmes de société, du changement climatique, tout ça, ça n'existe pas pour moi en arabe, ou ça n'a longtemps pas existé, parce que c'est un vocabulaire qui n'était pas celui parlé à la maison. Et je crois que dans cette dimension-là, il y a pour moi une dimension qui est personnelle, mais qui en fait, au fond, est assez politique et concerne beaucoup de familles immigrées, c'est-à-dire où la langue d'origine, et là en l'occurrence l'arabe, est parlée à la maison, mais elle est en quelque sorte confinée, c'est un mot à la mode, mais elle est utilisée à l'intérieur de la maison, mais pas à l'extérieur. Et ma mère m'a dit, et d'ailleurs à l'occasion de l'écriture de ce livre, qu'en fait, elle ne me parlait pas volontairement l'arabe à la sortie de l'école, parce qu'elle n'avait pas envie d'être identifiée, elle aussi, à cette langue, dans un pays dans lequel on lui adosse un certain nombre de stéréotypes. On pourra y revenir. Et ça, je crois que c'est quelque chose d'assez courant dans les gens que j'ai rencontrés dans mon livre, c'est-à-dire l'idée que la langue arabe, hein, c'est la langue de la maison et c'est pas forcément la langue du dehors. C'est pas la langue de l'école, pas la langue du travail. C'est une langue familiale dans laquelle on dit des émotions, dans laquelle on donne des injonctions. Voilà. Et donc, par là même, c'est beaucoup une langue du coup de transmission, comme toutes les langues d'immigration. Mais ça m'a posé moi derrière un certain nombre de problèmes pour pouvoir utiliser cette langue, par exemple dans ma vie professionnelle.
Et voilà les deuxième extrait des podcasts Nerner de Nadia. Vas-y, je t'en prie, Rahim.
Juste avant de revenir sur Argot avec Abiola, juste une question, c'est quel est le travail d'une boîte de prod exactement pour quelqu'un qui n'y connaît rien?
Alors, donc moi, je suis suivie par la boîte de production Label Popcast à Marseille. Et ce qu'ils me permettent de faire, bah déjà, ils me montent les épisodes, ce qui est super parce qu'il faut savoir que je ne vis pas du podcast et qu'il est extrêmement rare de vivre d'un podcast ou de tout autre projet militant ou autre. Donc moi, j'ai un travail à temps plein et ça, c'est du bonus et je suis très heureuse de le faire. Mais il faut dire que c'est très difficile et très précaire. Donc ça, c'est important de le dire. Mmh. Et que le label me permet justement de m'appuyer sur le montage, sur la recherche d'invités, sur les contacts, sur les studios. Donc... C'est c'est un soutien indéniable qui me permet d'avancer.
D'accord.
Une petite équipe, quoi.
Oui, une petite équipe. Être seul, c'est très difficile, surtout que je touche à des sujets très intimes. Donc, je ne suis absolument pas objective. Et je vous avoue que des fois, c'est très difficile de parler de ça et que je dis, écoutez, là, ça ne va pas trop. C'est difficile de toucher ce point. Est-ce que vous pouvez m'aider à faire des recherches? Est-ce que vous pouvez me donner un avis extérieur? Et ça m'aide énormément. Et moi, j'aime aussi le fait que parler... d'origine nord-africaine, c'est pas facile en France. C'est vraiment pas un sujet qui est apprécié, sauf si c'est pour faire des polémiques sur l'islam et autres, parce que je tiens à rappeler qu'on n'est pas forcément musulman, ou qu'on porte pas forcément en foulard, ou qu'on n'est pas forcément un délinquant quand on est d'origine nord-africaine, parce que visiblement, c'est pas acté en France, tout le monde ne le sait pas.
Pas acté dans les médias de masse,
voilà.
En tout cas. Ouais.
Donc, quand on dit « Bonjour, je veux valoriser la diversité des identités, je veux parler de notre histoire riche, je veux dire qu'il y a des gens de grande valeur c'est pas facile, on nous ouvre pas les portes, donc j'apprécie le fait qu'il y ait des personnes avec des moyens qui nous ouvrent ces portes et qui nous disent voilà, nous on a des moyens, on vous aide à faire ce projet là mais tu dis ce que tu veux, et ça c'est très très riche parce que j'ai une liberté de parole, de ton, et j'aborde les sujets que je veux, de la manière dont je veux, et ça c'est très important.
Très, très précieux du coup pour un travail comme le tien, j'imagine.
Exactement. Ouais.
Bravo en tout cas pour ce travail.
Bravo.
Nadia.
Ouais.
Merci à vous.
Continue à discuter tous ensemble et nous allons aborder Argot, qui est un superbe outil. Nous vous conseillons d'aller sur argot.fr, Argot, A-R-G-O-T. Alors, Abiola, c'est quoi la ligne éditoriale d'Argot? Quel est cet objet? Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est cet objet numérique?
Alors, c'est vrai qu'en entendant parler du site, c'est vrai que je me rends compte qu'on est plus trop présent sur le site, mais davantage sur les réseaux sociaux, et c'est l'évolution, on va dire, du game qui veut ça. Vraiment, Argot, moi, je le considère comme et l'équipe aussi, hein, vraiment comme un média-agence, dans la mesure où, au-delà de produire de l'information, on accompagne aussi des marques et des boîtes sur des problématiques précises, à savoir ce qu'on appelait précédemment la RSE, mais qui on va dire s'américanise un peu plus, si on parle davantage maintenant de social community impact. Donc en fait, nos journées sont en fait se jouent entre ces deux activités, l'information et on va dire le conseil derrière. Et donc voilà, c'est comme ça que je pourrais vraiment définir, hein, si on devait parler de chaîne numérique, un média et qui fait du conseil à côté.
C'est un magazine, en fait, hein, un magazine où on trouve plein de rubriques, ouais, différentes. Par exemple, vous organisez des tables rondes, aussi bien des tables, ouais, rondes que des articles. Un mot sur ces tables rondes. Vous les organisez, alors, est-ce que c'est des choses que vous organisez régulièrement ou pas?
Alors, on organisait ça régulièrement avant le Covid.
Oui.
C'était un événement qu'on organisait chaque mois ou chaque deux mois. Donc on avait deux types d'événements. On avait le palabre, qui en fait consistait à inviter des gens à débattre sur un sujet, donc généralement des professionnels. Alors j'ai très mauvaise mémoire, hein.
Ah là, on a reçu créer ou trouver son emploi, même combat, ouais, ça c'est l'un des, ouais, thèmes. On a mode et diversité, tendance ou réel changement.
Voilà, et c'est ça, ouais.
Influenceur, ouais, starlet ou prophète 2.0.
C'est ça, voilà. Donc en fait, pour chacun des thèmes, on a reçu des gens qui avaient du coup une petite expérience. Par exemple, sur l'emploi, on a reçu les fondateurs de Welcome to the Jungle, Jérémy Cléda. Et en face, on avait, alors j'oublie toujours son prénom, mais une directrice d'investissement chez Impact Partner, qui elle, justement, finançait des projets entrepreneuriaux. Donc c'était à chaque fois mettre deux personnes qui ont, on va dire, deux visions d'un même marché. Et c'est pareil pour le sujet qu'on a fait sur les influenceurs. Donc on a reçu les créateurs de l'agence Mile, qui accompagnait, qui accompagne toujours d'ailleurs des influenceurs comme Riyad, Vargas ou d'autres, hein, qui aujourd'hui comptabilisent pas mal de vues. Et d'autres créateurs d'agence qui, eux, accompagnaient plus, on va dire, des gens qui étaient beaucoup plus mass market, et surtout qui étaient pas forcément portés sur les questions de l'impact social, l'inclusion. Donc, en fait, il y a vraiment deux visions d'un même sujet. Et donc, ça, c'est pour le palabre. Et pour la masterclass, donc c'était le deuxième type d'événement qu'on organisait, on recevait tout simplement des professionnels, des journalistes ou de la com ou des médias, et qui venaient dans nos bureaux parler de leur activité, partager leur expérience. On avait reçu Rémi Buzine de Brut, mm-hmm, Sébastien Bellamy de Click, et également Gaspard Gonzer, dans un autre registre, qui était l'ancien conseiller de Hollande à l'Élysée. Ouais. Et voilà, cette expérience, enfin vraiment, il y avait deux types d'événements, mais le but premier de cette expérience était de partager, tout simplement, et de partager de manière franche et simple.
Ça représente, ouais, Abiola, ça représente combien de personnes, Argo? Vous êtes une équipe de combien à travailler sur ce média
Alors, on est tout petit site. Encore, hein. On est 5 personnes en full time. On n'est pas la grosse agence avec du passage et tout. Donc, ouais, on est 4, 5, je dirais, parce qu'on a une alternance. Et on se répartit tout. Moi, je disais généralement qu'on accueille des nouveaux. Je disais que pour être sur Argo, il faut savoir aussi bien faire la vaisselle. On avait des tours de vaisselle au bureau, passer le balai et pouvoir, on va dire, établir une proposition pour un client, quoi. Mmh. Donc c'était vraiment l'apprentissage d'une agence à taille humaine.
Voilà. On peut dire que vous avez vraiment une action dans l'entrepreneuriat, en fait, apparemment. Vous avez un engagement plutôt sur ce domaine-là?
Bon, en fait, ce qui est marrant, c'est que notre pensée elle évolue en fonction au fil des années. Au début, on est arrivé à fond sur l'entrepreneuriat et même la baseline, c'était l'économie des quartiers populaires. Ouais. Et je pense que ça correspondait aussi à un certain engouement pour l'entrepreneuriat. Et au fil des projets qu'on menait, on s'est rendu compte qu'on avait tendance à présenter un peu trop l'entrepreneuriat comme une solution idéale, alors que c'était pas le cas. Il y avait un peu trop d'angélisme dans nos propos. Et on s'est dit, faut peut-être avoir plus une mise en perspective plutôt qu'une mise en lumière, en fait. Tout simple. On présentait beaucoup l'entrepreneuriat, l'entrepreneuriat est beaucoup présenté comme une solution dans les quartiers, alors que il y a deux choses. Déjà, c'est une solution qui est, dans bien des cas, une solution par défaut. Et deuxièmement, c'est pas, un remède miracle à tous les maux, parce que les gens qui n'ont pas, en fait, vocation à entreprendre et qui ont vocation à rentrer dans des schémas plus classiques, à savoir le salariat, qu'est-ce qu'ils font en fait? Ils vont pas les livrer au loup, vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Donc c'était, on avait vraiment ce propos-là au début et maintenant on a vraiment, essayé d'élargir notre ton parce que je pense que c'est davantage objectif de parler d'entrepreneuriat comme une solution parmi d'autres. Donc c'est vraiment sorti de notre purpose, en fait.
C'était avant ou après votre discussion, votre rencontre avec Emmanuel Macron, ministre de l'économie, si je ne m'abuse?
C'était en même temps, on va dire. On va dire en même temps. Et vrai, ça ne va pas être se mentir, hein, on s'est vite aussi rendu compte que c'était un argument qui était utilisé par la Macronie de parler d'entrepreneuriat comme étant
la panacée,
alors qu'en vrai pas du tout, quoi. Okay. Voilà, c'est là qui cache la forêt, quoi.
D'ailleurs, c'est quoi le modèle économique de Argo?
Tout simplement, on vit du conseil, tout simplement. Enfin, on fait des OP avec des marques, il y en a qui viennent encore. Et on vit de nos collaborations. Voilà. C'est notre source de revenus principale. Après, il y a des à côté, mais typiquement, on n'a aucune aide, aucune subvention parce qu'on est aussi une entreprise, mais on n'en a sollicité aucune, même pendant le Covid. Pas par orgueil et pas par... c'était pas un luxe, c'était pas un caprice. C'est juste que généralement, quand vous dealez, quand vous dealez avec, une collectivité territoriale, ou l'argent n'est jamais donné gratuitement, et ça emporte aussi, une certaine idéologie que nous on conteste et on refute, quoi. Enfin, c'est des projets qui sont pourris par la condescendance et je vais peut-être un peu loin, mais voilà, on ne vit que de l'argent qu'on gagne.
Est-ce que la collaboration avec Jordan sur le lancement de Nana Benz, peut-être un mot sur Nana Benz, ce que c'est?
Alors Nana Benz, c'est le vertical qu'on a lancé avec Jordan à l'époque. Le Nana Benz, c'est tout simplement la génération de nos grands-mères au Togo, en Afrique de l'Ouest. Donc ça allait du Togo au Nigeria, qui sont mes trois origines, en passant par le Bénin. Et en fait, c'est des femmes qui, au sortir de la guerre, parce que leur mari revenait mutilé de la campagne de France ou tout simplement complètement fou, on va pas se mentir, prenaient les devants pour nourrir leur famille. Il y en a qui se lançaient dans le commerce, et notamment dans le commerce de tissus. Et par un heureux hasard ou par la force des choses, certaines d'entre elles faisaient fortune. Et la première chose qu'elles faisaient, quand elle faisait fortune, c'était d'acheter une Mercedes-Benz, qui était un objet de prestige à l'époque. Donc, c'était un objet d'affirmation, et elles ont gagné ce surnom de Nana Benz, parce qu'elles avaient acquis un tel niveau d'influence qu'il arrivait même qu'elles prêtent des fois leur voiture à l'État togolais, dans des cérémonies de présentation. Donc, c'était juste, en fait, des dames badass avant l'heure, quoi.
Abiolat, c'est quoi ton parcours à toi? Comment t'es venu à vouloir créer Est-ce que tu t'étais déjà intéressé à faire un média quand tu étais plus jeune ou...
Alors, non, pas vraiment. Au j'étais gros consommateur de médias.
Ouais.
Quand j'étais plus jeune et tout, vraiment. Je crois que même quand j'allais aux chiottes, j'avais toujours un magazine ou quoi que je lisais. Et non, sinon, j'ai fait une fac de droit. Et je pense que le premier déclic que j'ai eu, c'est quand je suis parti à Londres après la licence. Que je me suis dit que alors il y avait deux éléments qui moi m'avaient un peu marqué et favorablement, c'est que je suis rentré dans un H&M à l'époque et j'ai vu à la caisse tout simplement une fille qui était voilée, ce qui était à l'époque impensable en France. Je me disais mais en fait si la meuf est à la caisse et que ça se passe bien, pourquoi ça devrait m'interpeller? C'est tout simplement parce que du pays duquel je venais, savoir la France, c'était un truc qui était impensable. On jugeait les gens sur leur apparence. Nadia tout à l'heure parlait des clichés des clichés qui étaient liés aux personnes d'origine arabe, d'origine maghrébine. C'est la même chose pour les personnes d'origine subsaharienne. Mmh. Et le deuxième truc, c'est que à l'époque, j'avais ouvert un petit compte à la HSBC qui, à Londres, est l'équivalent de la Poste. Donc c'est un peu quand vous débarquez, vous n'avez pas de thunes. C'était la banque la plus simple pour ouvrir un compte. Et j'ai vu que je rentre et la personne qui me reçoit, la conseillère, c'est une Nigérienne, mais qui est tatouée jusqu'au cou, avec des piercings de partout. Et je me dis, mais en fait, elle, on la laisse gérer le compte des gens sans problème, en fait. Sans problème, et on ne fait pas attention à ses tatouages et tout. Et si elle est là, c'est qu'elle le fait bien. En tout cas, je suppose. Et je ne vais pas verser dans l'idéalisme en disant que là-bas c'est mieux qu'ici, vraiment les systèmes sont différents, mais je trouvais que c'était déjà des choses qui étaient intéressantes, qui m'interpellaient, et surtout que en fait on peut être décomplexé et ne pas avoir, comme je disais plus tôt, à se fondre dans un moule. Donc à partir de ce moment-là, à partir de cette expérience, je me suis dit que quel que soit ce qui se présentera à moi à l'avenir, je ne resterai pas toute ma vie à travailler pour un patron. Parce qu'en France, malheureusement, on ne peut pas être entièrement ce qu'on est quand on est dans une boîte. Donc, suite à ça, j'ai terminé mes études. Ensuite, j'ai commencé à travailler dans la com en tant que concepteur rédacteur, pour répondre à ta question.
Bien sûr. J'écoute attentivement.
J'ai fait un passage au Bondi Blog. Et je pense que le déclic s'est fait au Bondi Blog. Parce qu'à l'époque, le Bondi Blog, c'était vraiment le média des quartiers populaires. Il y avait une énergie qui était juste géniale. La porte était ouverte et tu rentrais, si tu écrivais, que tu prenais plaisir à écrire, on te demandait d'écrire encore plus. Donc c'était vraiment une superbe expérience. Et je pense que le déclic qui me permet de créer un média plus tard, c'est au Bondi Blog que je l'ai eu. Après, le Bondi Blog, il s'est passé ce qui s'est passé au Bondi Blog, il y a des changements de direction et tout. Donc, on va dire, il y avait une page qui se tournait. Et je suis parti du Bondi Blog. Et après, j'ai créé Argo quelques mois plus tard.
D'accord, donc, super parcours. Ouais, super.
Sur Argo, je disais que il y a une certaine démarche artistique. Comment vous travaillez vos collaborations artistiques? Les photographes, qui sont-ils? Comment sont-ils choisis?
Généralement, c'est des gens qui viennent à nous. C'est peut-être aussi de par mon tempérament, on va dire, c'est pas que je suis timide, mais je suis très dans ma bulle en fait. Du coup, ça a un peu infusé dans la culture d'Argo et même des gens de l'équipe. Et surtout, on s'est dit que il fallait quand même pouvoir apporter avec des gens qui avaient un certain savoir-faire et une certaine culture de leur métier. Par exemple, quand on bosse avec un graphiste, nous, ce qui va être déterminant, c'est quand on recrute un graphiste, c'est que ce graphiste ait une culture du graphisme, vraiment, qui n'ait pas appris graphisme et qui ne nous a pas que comme un métier. Et pareil pour les photographes. Du coup, en fait, sans vraiment chercher la perle rare, vraiment, sans vraiment chercher l'exigence, on va avoir des gens qui vont proposer quelque chose de très recherché, de très pointu, parce que tout le temps, ils vont se poser des questions. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, Argo, je pense que est perçu comme un média qui peut-être se prend la tête sur l'esthétique, Alors qu'en fait, non, on fait juste appel à des passionnés. Et je pense que quand tu es passionné, tu vas forcément au bout des choses, quoi.
Ouais, je pense à cet article 24 heures à Tunis, où il y a des superbes photos qui viennent illustrer cet article. Donc c'est la personne qui a fait l'article a aussi fait les photos.
Alors
c'est la même personne ou pas? Parce que
s'il y a plus de photos, je pense, que de mots.
C'est
donc
ça.
En fait, j'ai vite fait rédiger. Parce qu'en fait, alors comment ça s'est fait ce projet-là? C'est que j'avais été invité à Tunis pour une conférence sur les médias. Sur les nouveaux médias justement et là-bas en fait simplement sur Insta, parce qu'en fait on est beaucoup plus présent sur Insta que sur notre site, j'ai dit bah en fait voilà, je suis à Tunis, qui est en ville quoi, et il y avait un photographe qui suivait Argo de Tunis qui s'appelle Eitem Ouria, que je trouvais juste excellent en fait comme il a répondu. J'ai vu son travail, je trouvais ça fou quoi, il était vraiment chaud comme on dit. Et il est toujours d'ailleurs très chaud. Du coup, bon, il est passé à l'hôtel où se tenait justement la conférence. On a pris un café et on s'est dit, bah, en fait, bah, go, viens, on va en ville et viens prendre des photos. Et il m'a attrapé par le bras, il m'a tiré dans les rues de Tunis et il a fait des photos de fou en fait.
Ouais, je confirme.
Et quand on avait, ce travail-là sur les bras, bah, on se dit, bah, faut faire un article direct. Aitem, enfin, moi j'ai beaucoup d'admiration pour ce qu'il fait. Et donc je me suis dit, bah, en fait, le meilleur moyen de le rendre, vraiment le moyen de mettre à notre échelle, parce qu'on a encore une toute petite structure, hein, de mettre en valeur son travail, bah, c'était de publier sur le site. Quoi.
D'accord. Donc, voilà. Donc le meilleur moyen pour admirer tout ça, c'est sur Instagram ou.
Ouais, je pense que c'est sur Insta. Ouais. Des fois, je présente même tout ici parce que j'ai l'impression qu'il est vieux.
Désolé, moi, je suis de la vieille école.
Non, mais il n'y a pas de souci.
En tout cas, voilà, c'est un superbe travail. Nous, on est très heureux d'avoir découvert aussi bien Argo que Nana aussi.
C'est, merci pour l'invitation.
Deux beaux projets, en tout cas. On vous souhaite une longue vie à ces deux projets. Juste Nadia, toi, tu es donc aux Beaux-Arts à Marseille.
Oui, je travaille à l'École des Beaux-Arts de Marseille, oui.
Un petit mot sur les Beaux-Arts de Marseille. Il y a une diversité aujourd'hui. Les Beaux-Arts s'ouvrent à une certaine diversité.
Les Beaux-Arts de Marseille s'ouvrent à une nouvelle génération. Et je pense faire partie de cette nouvelle génération de personnes... qui a des compétences diverses, qui vient d'un milieu, je n'ai pas du tout fait l'école des Beaux-Arts, je ne viens pas d'un milieu privilégié. Moi, comme vous l'avez entendu dans l'épisode, je viens d'une famille de fermiers, ma famille est très modeste, j'ai dû construire, bah, comme à Biolay, comme plein d'autres personnes, mon réseau toute seule, et j'en suis d'autant plus fière, et je suis fière de voir des projets comme celui d'Abiola où nous-mêmes, on rend l'appareil aux autres et on se met en valeur les uns les autres, et je trouve ça... très important d'être solidaire et de savoir d'où on vient. Et c'est très important. Et je voulais revenir sur quelque chose, sur le choix du modèle podcast. C'est aussi parce que le podcast, il n'y a que la voix. Et il n'y a pas l'apparence, tu vois. Tu sais pas à quoi je ressemble, en fait, quand tu entends ma voix. Et tu peux t'imaginer n'importe quoi, parce que beaucoup de gens pensent que les gens d'origine nord-africaine parlent avec un accent de cité, alors que ça n'a rien à voir, par exemple. Donc peut-être que des gens, en m'entendant, ne s'imaginent pas que je suis, oui, d'origine marocaine, que j'ai des cheveux bouclés, que je suis brune. Enfin, voilà, je trouve ça super important, le podcast, ça va à l'encontre des clichés. Et c'est ce qui est bien avec nos projets, c'est que justement, on est à des endroits où on ne nous attendait pas. Et c'est un peu comme l'École des Beaux-Arts de Marseille, je suis à un endroit où on ne m'attendait pas, où moi-même je ne pensais pas être un jour. Et c'est bien.
Mais il est heureux que si ces institutions-là s'ouvrent aussi à la diversité, et plus on aura une pluralité d'expressions, mieux ce sera. C'est une richesse pour notre pays, comme vous le soulignez tous les deux, à travers vos projets, qu'on a été fiers aujourd'hui de présenter dans cette semaine des médias au Prunier Sauvage avec News FM. Donc, on vous invite tous et toutes à retrouver les podcasts de Nana sur Spotify, Deezer. Voilà. Tu n'as jamais songé à aller voir côté Arte Radio ?
Non, on me l'a conseillé plusieurs fois, mais pour l'instant, je reste fidèle à mon label et on verra où la vie m'emmène. Mais comme je disais tout à l'heure, c'est un milieu assez précaire, le podcast, c'est moi, je n'en vis pas. Donc, si vous voulez soutenir des projets tels que les nôtres, suivez-nous sur les réseaux sociaux à NA3 Podcast. écoutez-nous, mettez des notes sur Apple Podcast, parce que c'est comme ça qu'on pourra évoluer et continuer nos projets. Parce que si les gens n'écoutent pas, s'ils ne montrent pas qu'ils sont favorables à ce genre d'initiative, on ne pourra pas continuer. Donc on ne vous demande pas de l'argent, mais des écoutes, du soutien, et n'hésitez pas justement à le montrer, car c'est comme ça qu'on pourra continuer à faire ces projets qui sortent de la norme.
Et à partager aussi tout autour de vous, à chaque fois en parlant, en partageant des liens, tout ça.
Bien sûr, aux concernés voilà. Et aux non-concernés, parce oui, que ce que sûr. Je voulais faire, c'est pas faire un podcast seulement pour les personnes d'origine nord-africaine, mais montrer justement qu'il y avait des liens. Et je sais qu'il y a des personnes qui sont blanches ou d'autres origines qui se reconnaissent dans les problématiques que j'aborde, et c'était totalement le but. Je ne suis pas que nord-africaine, je ne suis pas que une femme.
Ça fait écho à d'autres vagues d'immigration d'avant aussi, où on peut se retrouver aussi.
Exactement.
Quoi. Je veux dire, c'est très large, hein, la France, c'est aussi ça, et donc c'est aussi justement, ça fait écho quoi. Même si vous n'êtes pas d'origine, voilà, même si vous n'êtes pas d'origine
nord-africaine tout court.
Voilà, africaine tout court. Voilà, allez jeter une oreille, c'est très très bien fait en plus.
Et suivez donc sur Instagram
Argo, ouais.
Argo, qui est vraiment une belle initiative aussi. Nous, on continuera à suivre assidûment. Merci pour ce temps que vous avez consacré à Biola et Nadia. Merci du déplacement.
Merci
aussi,
beaucoup.
Nadia.
Merci pour votre invitation. Oui, pour votre soutien, c'est très important, et on est très heureux de participer à des initiatives telles que celle-ci, portées par des associations qui sont engagées.
Merci beaucoup. Merci beaucoup.
Et à très vite sur Grenoble, j'espère un jour.
Oui,
bien sûr, Abdoula. Peut-être que je te verrai parce que là, on ne s'est pas vu.
Ouais, okay. Avec plaisir.
À bientôt. Au revoir.
Allez, merci.
À bientôt.
Merci à toutes et à tous.
Salut. Merci à tous. Et puis, vous retrouverez bien sûr d'ici quelques jours le podcast de cette discute, justement, sur le site de News FM et relayé sur le site du Prunier Sauvage, sûrement.
Et peut-être, et aussi en rediffusion demain à midi.
Demain, rediffusion, comme d'habitude, la discute entre midi et 13h. Voilà. On repasse au son, bien sûr, sur News. Et puis le prochain rendez-vous, je vous le donne, ce sera à 16h30 aujourd'hui avec les ateliers de l'école Anatole France, les ateliers périscolaires. Donc restez avec nous dans cette journée d'immersion média. Voilà, voilà. Allez, le retour du son sur News, c'est pour tout de suite, les copains.